Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'Au fil du temps, l'émission qui relie les générations. En cette première diffusion d'Au fil du temps, parce que vous savez que nous sommes rediffusés à plusieurs moments et sur les plateformes de balado-diffusion, donc en cette première diffusion, nous sommes le 22 septembre, jour officiel de l'entrée de l'automne dans ma vie et dans notre vie. C'est donc le jour de l'équinoxe, ce qui veut dire que l'automne est vraiment, vraiment là. Et je pense que je vous disais la semaine dernière que je vis toujours un certain déni de saison. On dirait que les deux premières semaines de septembre, j'arrive pas encore à embarquer pleinement dans l'automne, ni à sortir pleinement de l'été. Donc, je suis dans une transition. De toute façon, c'est un peu de ça qu'on parle au fil du temps, les transitions intergénérationnelles. Mais plus particulièrement dans les saisons, moi, mon déni se vit par l'habillement. On ne sait pas trop quoi mettre. Plus été, plus hiver, même quelqu'un qui me propose une fondue, je fais « non, pas tout de suite, c'est pas encore l'automne ». L'épluchette a commencé à être un petit peu passée. Donc là, je suis prête, comme a déjà dit un politicien, « automne, je suis prête ». Avant de vous présenter la pièce qui est un rituel d'automne pour moi, je vous parle un petit peu de notre menu aujourd'hui au fil du temps. On s'entretient avec Aline Pinksteren, l'éditrice et rédactrice en chef du magazine Le Bel Âge que vous connaissez et que vous lisez probablement. Elle va nous entretenir d'un sondage, les résultats d'un sondage paru en 2017 sur le bonheur des 50 ans et plus. Et je serais très curieuse de savoir comment elle croit que ça a évolué depuis 3 ans. C'est une femme dynamique qui a un riche parcours, alors j'ai très hâte de lui parler. En deuxième partie d'émission, on discute d'un échange épistolaire hors norme, en fait un échange de lettres qui a eu lieu entre des jeunes de Montréal-Nord et des personnes âgées du centre de jour Angelica. On reçoit Julie Nollet, la récréologue. Donc, pour nous démarrer officiellement cette première émission d'automne, voici mon rituel, une chanson que je fais toujours jouer quand je veux vraiment me dire « ça y est, c'est parti ». C'est en septembre de Gilbert Bécaud.
Les oliviers baissent les bras, les raisins rougissent du nez, et le sable est devenu froid. Oh! Blanc soleil, maître baigneur et saisonnier retournent à leur vrai métier, et les 100 ans seront sculptés avant Noël. C'est en septembre, quand les voiliers sont dévoilés et que la plage tremble sous l'ombre d'un automne débronzé. C'est en septembre que l'on peut vivre pour de vrai. En été, mon pays à moi, en été, c'est n'importe quoi. Les caravanes, le camping-gaz, au grand soleil, la grande foire aux illusions, les slips trop courts, les shorts trop longs, les Hollandaises et leurs melons de cavaillon. C'est en septembre, quand l'été remet ses souliers et que la plage et comme un ventre que personne n'a touché. C'est en septembre que mon pays peut respirer. Pays de mes jeunes années, là où mon père est enterré, mon école est échauffée au grand soleil. Mois de mai, moi je m'en vais et je te laisse aux étrangers pour aller faire l'étranger moi-même sous d'autres ciels. Mais en septembre, quand je reviens où je suis né et que ma plage me reconnaît, m'ouvre des bras de fiancée. C'est en septembre que je me fais la bonne année. C'est en septembre que je m'endors sous l'olivier.
C'est en septembre que l'on peut vivre pour de vrai, dit Gilbert Bécaud. Je reçois maintenant une personne qui semble vivre à fond, à fond. Aline Pinksteren est une femme de médias. Depuis des années, elle pilote des sites Internet, des programmes télévisés, des programmes, des publications renommées en Europe et au Canada. On la connaît évidemment pour son rôle majeur au sein du magazine Le Bel Âge, comme éditrice et rédactrice en chef. Bonjour, Madame Pinksteren.
Bonjour.
Alors, c'est une publication, un magazine sur les 50 ans et plus. Donc, je vous lis, ayant 51 ans. Vous avez publié en 2017 un sondage sur le bonheur des 50 ans et plus. Et évidemment, j'étais curieuse de savoir votre avis sur l'évolution de ce sondage-là 3 ans plus tard. Mais d'abord, peut-être me parler des faits saillants du sondage de 2017.
Les faits saillants, en fait, on avait fait ce sondage parce qu'on voulait vraiment briser les mythes, casser les stéréotypes sur les 50 ans et plus. Et c'est pour ça aussi qu'on voulait absolument parler de bonheur plutôt que de toujours parler de problèmes de santé, de choses plus négatives qui arrivent aussi, mais plus négatives. Et donc, en fait, les faits saillants de ce sondage, selon moi, c'est justement tout ce qui cassait les stéréotypes qui sont attachés aux 50 ans et plus, que ce soit sur l'activité physique, que ce soit sur leurs préoccupations, que ce soit sur leur vie sociale, leur vie sexuelle, etc. Donc, c'est vraiment ça qui ressortait.
J'ai lu dans ce sondage-là que 88% des aînés se disent bien entourés. Or, on parle beaucoup de l'isolement des aînés. Quel regard vous faites sur cette statistique-là?
Mais selon moi, d'abord, ça a dû certainement beaucoup, beaucoup évoluer, évidemment, depuis les temps que nous vivons maintenant. Je pense que quand on voyait un petit peu plus dans cette enquête, c'était principalement aussi les gens qui avaient des enfants, entre autres, et des enfants et donc des petits-enfants parfois aussi, qui affirmaient cela. On avait quand même aussi « Je me sens souvent seule » qui revenait à 25% dans le même sondage. Donc, c'est sûr que c'était une minorité par rapport à la statistique que vous avancez, mais il reste ça reste quand même important aussi et ça a dû s'amplifier, c'est sûr.
Oui, bien surtout quand on est isolé, en fait, des gens qu'on aime, parce qu'on peut avoir l'isolement, la solitude, l'isolement de ne pas avoir des gens à qui parler, mais là, ce qu'on a vécu, c'est de ne pas vraiment être près d'eux.
Exactement, exactement. Ce qu'on a tous vécu, dans le fond, c'est nous, en fait, à Bel Âge, en fait, ça fait 3 ans maintenant qu'on se bat contre l'isolement social des aînés assez concrètement à travers On Jastu, qui est un événement qui a lieu chaque année. Justement pour créer des rassemblements un peu partout au Québec. On avait normalement notre 3e édition qui devait avoir lieu début mai. On devait rassembler 10 000 personnes dans une centaine d'événements. Donc, bien sûr, ça n'a pas eu lieu, on s'entend. Mais ce besoin-là, justement, on se dit maintenant, on va faire une version virtuelle en novembre parce que on s'est dit, nous, on a tous maintenant ressenti ce que ça pouvait être d'être isolé, d'être sans nos proches. Et donc, nous, on a été confinés un temps, on a été isolés un temps, eux, ils le sont à l'année. Et donc c'est ça, on va vraiment continuer à sensibiliser à ça. Cet isolement, comme vous le dites, la solitude et l'isolement, c'est vraiment deux choses différentes là.
Vous avez tellement raison. C'est vrai que pour plusieurs personnes de mon entourage, j'ai entendu des. Là, je comprends ce que vivent certains aînés. Je le comprends vraiment, vraiment mieux. Je le ressens surtout.
C'est ça, c'est on a cette richesse, on a pris conscience en fait de la richesse que c'était d'avoir des proches. C'est toujours, on prend conscience de ce qu'on a quand on l'a moins, c'est connu. Mais voilà, on a pris conscience de ça et donc je pense que ça va, j'espère en tout cas que ça va amener beaucoup plus de solidarité envers les personnes aînées isolées.
Ben, tout à fait, et c'est un peu le but de cette émission au fil du temps. Et je vous cacherai pas que quand j'ai démarré cette émission-là, votre initiative, On jase-tu, c'était probablement celle que j'aurais aimé parler en première émission. Et c'est sûr que j'ai été déçue là, d'apprendre, on s'entend qu'il y a 10 000 personnes, on est très loin des rassemblements de 10 et plus.
Oui.
Parlez-moi de cette version virtuelle de novembre.
Mais normalement, le 19 novembre, on va essayer de créer le plus grand rassemblement virtuel possible. Et donc, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser un maximum de monde à ce que vivent les personnes aînées. Donc, on va faire une action, en fait, vraiment qui, justement, sensibilise les plus jeunes. Je sais que c'est aussi les liens intergénérationnels dans votre émission.
Oui.
Parce que ce qu'on va faire, c'est que pour chaque hashtag « on jase-tu », donc on touche vraiment les plus jeunes, pour chaque hashtag « on jase-tu », on remettra $1 à l'organisme des petits frères qui, comme vous le savez, lutte au quotidien contre l'isolement social des personnes aînées, justement. Et donc, voilà, l'idée, c'est qu'on soit présent sur tous les réseaux sociaux ce jour-là pour de l'animation qui va être effectivement accessible aux personnes aînées, mais aussi à tous les autres, et d'essayer d'embarquer l'ensemble des tranches d'âge, dans le fond, dans cette activité-là.
Vous pouvez assurément compter sur Au fil du temps et sur moi-même pour participer à la discussion.
Merci beaucoup.
Je reviens au sondage parce que il y a une statistique, je ne sais pas si elle m'a étonnée, mais je trouvais intéressante qu'on en discute. 69% des personnes questionnées croient que la vie est plus difficile pour les jeunes que pour eux au même âge.
Oui, moi je pense que c'est qu'on pourrait les mettre en rapport avec d'autres statistiques, justement avec d'autres choses qui étaient ressorties de ce sondage, c'est notamment que, et ça cassait un peu les stéréotypes, mais que justement pour 55%, en fait quand on demandait quel est votre principal souci pour l'avenir, le premier qui est revenu tout en haut, c'était la principale préoccupation, c'était les catastrophes écologiques. Et quand on met ça, oui, voilà, justement ça cassait des stéréotypes. Et bien au-dessus de plein d'autres, notamment les pandémies, je pense que si on fait le même sondage maintenant, on n'aurait pas les mêmes résultats, on s'entend tous. Mais il y avait aussi il y avait 64% des gens qui se déclaraient financièrement à l'aise, donc des 55 et plus. Et je pense que c'est ces deux aspects-là, je crois qu'ils vont être très différents pour les jeunes. Si on se souvient des catastrophes écologiques, on sait bien que c'est nos petits-enfants qui vont les subir de plein fouet. Quand on se dit financièrement à l'aise, la proportion était beaucoup plus grande encore dans les 75 ans et plus. C'est certain que quand on voit pour les plus jeunes, c'est évident que ça ne va pas être la même chose, ne serait-ce que l'accessibilité à la propriété, par exemple, quand on voit les loyers, quand on voit le prix des propriétés. Il y a plein de choses comme ça qui vont rendre les choses beaucoup plus difficiles pour les jeunes générations.
Et je crois que dans l'article qui accompagnait le sondage, vous disiez là, que ces aînés-là sont très conscients d'être une génération privilégiée.
Oui, surtout, ça se démarquait vraiment encore plus sur les 75 ans et plus.
Non, ben c'est ça, on veut pas nécessairement commencer un débat sur les milléniaux et les baby-boomers, mais on pourrait en discuter très longtemps.
Oui, tout à fait.
Par ailleurs, un autre fait qui m'a interpellée, c'est que les répondants au sondage estiment que les plus grands défauts de notre société sont la surconsommation et l'égoïsme.
Mais c'est assez, je pense qu'on doit être beaucoup à penser la même chose.
Oui.
Oui, c'est une évidence. Je pense que quand on, c'est la société qui va plus vite. C'est sûr que quand on voit, par rapport à l'égoïsme, je pense que le fait que les 55 ans et plus sont par exemple la force vive du bénévolat, on s'entend. On est vraiment dans le don, dans le don à la communauté. Je crois que donc, par opposition, c'est sûr que l'égoïsme doit paraître pour. Doit passer pour un des défauts principaux quand on est à ce point-là engagé, par exemple, dans le don et dans le bénévolat.
Oui, tout à fait. Je suis curieuse aussi, même le mot aîné, comment les gens réagissent à vos lecteurs à ce mot-là, aîné? Comment ils se perçoivent? Est-ce qu'ils se reconnaissent dans ce mot-là?
C'est drôle, j'ai l'impression que personne ne se reconnaît dans ce mot-là. Je m'explique. Je ne sais pas. En fait, c'est pour ça que moi, je dis toujours 55 plus. Parce que je ne sais pas comment. Senior, c'est plutôt français. C'est bizarre de qualifier. Je sais que justement, vous parliez de boomers. Boomers, c'est extrêmement péjoratif maintenant comme terme. C'est difficile. Les personnes aînées, quand on dit les personnes aînées, je trouve que ça donne vite un coup de vieux.
Oui.
C'est compliqué, je trouve que j'aimerais mieux parler de personnes en général. Oui, on est un magazine, par exemple, qui s'adresse aux 50 ans et plus, c'est sûr. Mais à part ça, pour moi, je m'adresse à des personnes, point, parce que je ne sais pas, tous les vocabulaires, moi, j'ai horreur des petites cases de toute façon. Et je trouve que maintenant, on est dans une société,
Qui nous met
justement,
facilement
où
la
on a. Oui, où on met des cases, mais aussi justement où on a de plus en plus de l'intergénérationnel dans le sens, je vois beaucoup de jeunes, je veux dire de moins de 25, qui sont quasiment amis avec leurs grands-parents, qui vont magasiner avec leurs grands-parents, qui se confient à leurs grands-parents. Il y a comme, bon, moi, j'ai par exemple, j'ai une de mes meilleures amies qui a 70 ans et j'en ai 48. Et donc voilà, j'ai l'impression qu'on va être plus dans des communautés d'intérêt, dans des
Oui.
passions communes, voilà, que dans des tranches d'âge.
Aline, on va écouter une chanson qui est en fait une artiste qui est en valeur dans le magazine Le Bel Âge, parce que l'un des attraits du magazine Le Bel Âge, ce sont les grandes entrevues justement avec les gens qui sont dans un moment précis de notre vie où on recueille un peu les fruits de tout ce qu'on a semé. Alors, je vous invite à ce qu'on écoute ensemble Au nom de la raison de Laurence Jalbert et on continue par la suite là sur ce que vous anticipez sur les perspectives intergénérationnelles.
Prétendre un jour y avoir goûté,
De retour à Au fil du temps, on s'entretient avec Aline Pinksteren, éditrice et rédactrice en chef du Bel Âge. Aline, tout juste avant la pièce musicale, vous avez lancé une expression que j'aime beaucoup. Plutôt que de voir des groupes d'âge, ici on parlait plutôt de communauté d'intérêt.
Oui, tout à fait. Je crois que c'est vraiment plus dans l'air du temps. On est, nous, en fait, en tout cas, chez Bel Âge, on essaye de lutter contre l'âgisme, qui est encore assez fort. C'est vrai qu'on est dans une période où on fait beaucoup la promotion, il y a juste titre, de la diversité. Et la diversité de l'âge n'est pas encore très présente. Donc, pour prendre un bête exemple facile, c'est que dans la publicité, même pour des marques qui s'adressent, dont la clientèle est clairement 50 plus, on met des jeunes mannequins en couverture, on met des jeunes mannequins en photo, etc. Et donc il y a comme encore une espèce de barrière de l'âge, et ça c'est vraiment, je trouve, dans ce qu'on voit dans les médias. Mais à côté de ça, dans la vie de tous les jours, je crois qu'il y a de plus en plus de communautés d'intérêt, effectivement, et que les plus jeunes ne voient plus, peut-être qu'alors je suis très optimiste, mais ne voit plus de la même manière ces barrières d'âge.
Ben, en fait, c'est ce que j'espère le plus. Et je vous avoue que moi-même, quand je vois ces publications-là qui parlent de vieillir avec des mannequins de 15 ans, ça me fait friser. Je peux pas croire, ça ne fait aucun sens. Dites-moi, Aline, vos collègues disent de vous que vous êtes dynamique, intuitive et visionnaire. Alors, que voyez-vous d'autre dans votre boule de cristal en ce qui a trait aux perspectives intergénérationnelles?
Je pense que on va vraiment aller vers plus de solidarité parce qu'on va être obligé. C'est-à-dire que l'isolement dont on parlait tantôt, l'isolement touche aussi les plus jeunes générations. Quand je dis les plus jeunes, je veux dire même les gens dans la trentaine, dans la quarantaine, surtout quand on vit par exemple en ville, il y a de plus en plus de gens qui sont célibataires et qui le restent, et il y a un moment où ce célibat, en prenant de l'âge, en ayant des problèmes de santé, peut se transformer en isolement. Mais donc il y a aussi une conscientisation de plus en plus à ces problèmes-là, et je crois que ça va amener plus de solidarité. Enfin, j'en ai vraiment, et je crois que c'est un des seuls points positifs de cette pandémie d'ailleurs, cette conscientisation là donc ce que je vois, que j'aurais pas dit je pense spécialement l'année passée à la même époque, mais ce que je vois, c'est ça, c'est que moi je vois du positif là-dedans, à long terme, on s'entend pas maintenant, hein, mais je vois du positif dans cette espèce de solidarité qu'il y a beaucoup plus. Je crois qu'on n'a jamais vu, un exemple, on n'a jamais vu autant de personnalités mettre des petites vidéos maison avec leurs grands-parents.
Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. En terminant, Aline, j'aimerais vous demander, comme la pièce de Laurent Jalbert le disait, « Laisse donc ton cœur te guider », qu'est-ce qui vous guide? Qu'est-ce que vous aimez le plus, qui vous anime le plus dans votre métier?
Oh, le contact, c'est sûr, le dialogue avec nos lecteurs. Je reçois des lettres toutes les semaines, je reçois plein de messages, plein de courriels. Je veux répondre à tout le monde, c'est bien clair. Et ce contact qui passe par le magazine, mais être au service, accompagner les gens, c'est ça qui me guide.
Je pense qu'on a tout à fait la même mission. Et comme je vous disais, on va s'assurer de partager votre initiative On jase-tu, parce qu'elle est essentielle. Je vous remercie pour nous avoir brossé ce portrait encourageant en vous écoutant. Je partage aussi le même espoir là, que la solidarité, avec les prises de conscience qu'on a fait, vont nous mener à de nouvelles perspectives intergénérationnelles.
Oui, on l'espère. Merci.
Merci beaucoup, Aline Pinksteren. Au revoir.
Au revoir.
Aline Pinksteren, éditrice du Bel Âge, nous parlait de son grand bonheur de recevoir des messages de ses lecteurs. Et je vous avoue, je l'envie un peu. Pourquoi? Parce que je vous entends peu. Et j'aimerais ça vous entendre davantage. C'est maintenant la 15e émission que nous avons ensemble. Donc, on a un certain rendez-vous. On a une petite accoutumance, vous et moi, je l'espère. Donc, je me dis, vous devez bien m'aimer un petit peu. Fait que là, je vais vous faire un petit peu de manipulation psychologique, là. Si vous m'aimez un peu, écrivez-moi donc. Notre adresse, canalm.vuesetvoix.com. Vous allez sur la page d'Au fil du temps et vous avez mon adresse de courriel personnel. J'ai envie que vous m'écriviez les sujets sur lesquels vous aimeriez qu'Au fil du temps développe des invités que vous aimeriez entendre. Et même, j'ai envie de lancer un petit projet comme ça, Maurice, hein? On va avoir une émission sur la gratitude. Alors, on pourrait peut-être lancer un appel aux auditeurs. Si vous avez une grand-mère, un grand-père, une tante qu'on considère un aîné que vous voulez remercier, écrivez-nous. On va vouloir les recevoir à l'émission ou encore vous pour les remercier. Je vous rappelle également que nos émissions peuvent être réécoutées sur la page de l'émission ainsi que sur Spotify, Apple Balado et Google Play Music. De retour à Au fil du temps, pour vous parler d'une initiative d'échange épistolaire, donc un échange de lettres en bon français, qui a mis en lien des personnes âgées et des jeunes de Montréal-Nord. Pour beaucoup de jeunes, c'était leur première lettre. Alors je vous offre ma première lettre de Richard Séguin.
C'est à toi que je l'envoie, parce que tu peux comprendre tout ce que ça représente. Patience et temps, entre les lignes, la main qui tremble et qui souligne. Je t'en dis plus en t'écrivant, je l'ai jamais fait en te parlant. C'est ma toute première lettre de toute ma vie. C'est ma toute première lettre de toute ma vie. C'est beau, c'est comme si on se trouvait là. On dirait je veux tout dire, les jours de joie ou de misère, des mots pour dire l'amour, des mots pour dire la terre, car c'est ma toute première lettre de toute. C'est ma toute première lettre de toute ma vie. Croisé sur mon chemin tous les mots du bonheur, les paysages en ta côte, le village tout en fleurs. Toute
Ma première lettre de Richard Séguin. Pour nous parler de cette initiative d'échange de lettres entre des jeunes de Montréal-Nord et des personnes âgées du Centre de jour Angélica, je reçois la récréologue Julie Nollet. Bonjour Julie.
Bonjour, bonjour.
Alors qu'est-ce que cette belle initiative de projet d'échange de lettres?
Ça a commencé avec la médiation culturelle de la ville de Montréal-Nord. Qui ont communiqué avec nous, qui avaient un projet avec l'équipe de basketball de l'école du quartier, et puis ils voulaient embarquer les jeunes dans autre chose que le sport et leur faire voir autre chose aussi. Donc ils ont communiqué avec nous. Nous, on dessert une clientèle d'aînés de Montréal-Nord, justement, qui sont en perte d'autonomie.
Qu'est-ce que, juste pour nos auditeurs, peut-être qui sont moins familiers avec le thème médiation culturelle, on parle de quoi exactement?
Mais c'est un peu comme eux autres, ils sont là pour amener la culture vers les gens. Souvent, il y en a qui ont un petit peu plus de difficultés à se rendre vers la culture. Ben eux autres, ils vont créer des ponts. Ils vont aller vers les gens pour leur amener la culture.
Je pense que
c'est
ça sert
ça
aussi.
Moi,
je pense que ça sert aussi à créer des liens parfois entre des gens qu'on soupçonnerait pas, pas les points communs puis la culture.
Oui. Puis en fin de compte, on a découvert des points communs. On finit par trouver des points communs avec justement ces jeunes-là qui sont venus, qui avaient vécu toutes sortes d'expériences de vie, et puis nos aînés. Qui eux aussi avaient eu, qui c'est sûr, ont un gros bagage. Les deux ont vécu souvent l'immigration et puis ont vécu des expériences qu'ils ont pu partager.
J'ai effectivement lu ça dans l'article qui est apparu dans la presse suite à cette initiative-là, que je crois que les jeunes et les personnes âgées s'étaient trouvé des points communs, je pense, sur leur origine.
Ben c'est ça, il y a beaucoup de nous au centre de jour, ben c'est sûr qu'on dessert les gens de Montréal-Nord. Alors on a beaucoup d'immigrants, beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Haïtiens, beaucoup de gens d'un peu partout en fin de compte d'Amérique du Sud. Et puis ben c'est ça, les jeunes joueurs de basketball, ben aussi étaient beaucoup des immigrants haïtiens ou d'ailleurs. Fait que puis même s'ils venaient pas des mêmes pays, mais ils ont vivent l'immigration, ben c'est quelque chose quand même de particulier, hein. Fait que ils pouvaient partager, les aînés pouvaient partager leur vécu, puis leur donner leurs expériences, puis comparer aussi là avec eux.
Puis juste pour bien comprendre là, ce que j'ai lu dans l'article de la presse, c'est qu'il y a plusieurs acteurs autour de ça là.
Ah oui.
Il y a la médiatrice culturelle, une écrivaine, un coach de sport. Donc prenons là justement Amarande Rivière, ça c'est la médiatrice culturelle, c'est ça?
C'est elle qui fait les contacts, qui fait les ponts.
Donc une créatrice de liens.
Oui, c'est ça. Puis elle n'en est pas à ses premiers liens. On a fait plusieurs beaux liens. Plusieurs belles activités avec elle. À chaque fois qu'elle nous appelle pour avec un projet, on dit jamais non à quelque chose comme ça, même s'il faut tasser d'autres choses. C'est trop des belles aventures.
Et là, vous avez souhaité, pour donner, je dirais peut-être une saveur pédagogique à tout ça, impliquer une écrivaine, Joanne Rochette, je crois?
Oui, c'est ça. Joanne Rochette était là depuis... en tout cas, nous, on avait déjà fait un projet avec elle une autre année, qui un projet d'écriture seulement avec les aînés, justement. Et puis, ben c'est ça. Elle a repris du collier puis pour faire ce pont-là, pour aider les jeunes et les aînés qui des deux côtés sont insécures. Les aînés souvent perdent un peu de confiance dans leur dans leurs moyens, dans la manière d'écrire, puis dans leurs émotions, tout ça. Puis les jeunes, ben ils l'écrivent. Ils l'écrivent. C'est fait qu'à donner des... À les aider à avoir confiance en eux.
Un peu, je pense, c'est drôle, là, je pense à Jeannette Bertrand là, qui a fait du coaching justement pour inciter les aînés à raconter leur histoire de vie.
Oui, c'est vrai. Ouais. À plus petite échelle, on l'a fait.
Et ça prenait, à ce que je comprends, là, quelqu'un pour les convaincre, les jeunes, d'embarquer. Donc c'est là, vous avez mis en scène un coach de sport.
Bien, le coach de sport, je pense que c'est lui peut-être, à l'origine, je suis pas sûre, mais je pense que c'est lui à l'origine qui est allé voir Amarante-Rivière pour dire qu'il voulait comme introduire un volet culturel à ces jeunes sportifs qui souvent, bon, ils mangent le sport, ils ne vivent que du sport, mais il voulait leur faire découvrir aussi autre chose en esprit d'équipe. Créer un autre lien. Fait que c'est comme ça que le lien s'est fait.
Et donc, lui, est-ce qu'il a vu que ça avait changé quelque chose, justement, sur l'esprit d'équipe des jeunes, au niveau du sport, sur leur performance?
Je peux pas vous dire sur le sport, mais je pense que ça a changé quelque chose dans l'estime des jeunes, là, qui étaient vraiment fiers du contact humain, qui était vraiment fier de ce projet-là. Là. Comment? Ça s'est déroulé sur plusieurs semaines et plusieurs mois. Tu sais, ça a commencé durant l'été, puis ça s'est terminé en décembre. On se voyait pas tout le temps, mais en décembre, ça a culminé par la visite à une partie de basketball, là, et qu'on a amené les aînés voir une partie de basketball à la fin.
Est-ce qu'il y en a qui se sont... même décidé là, à partager une partie de ballon.
Ils ont pu quand même toucher au ballon, mais disons que quand ils viennent au centre de jeu, ils sont pas très... ils ont un petit peu de difficulté, mais je veux dire, juste le fait d'aller voir une partie de basketball dans un gymnase, là, puis de les voir jouer, puis d'avoir de les connaître, puis d'avoir ce sentiment-là de fierté des deux côtés, c'était beau. On n'a pas beaucoup parlé non plus du volet aussi photographe. On avait eu photographe qui était venu ici au centre de jour quand les jeunes, la partie où ils nous ont visités après avoir fait l'écriture, ils sont venus nous visiter pour avoir le contact humain. Et puis, ils ont fait une petite démonstration de basket à l'extérieur. On a fait un repas ensemble. Puis ensuite, il y avait un photographe professionnel qui a pris des photos, mais pas des visages, qui a pris une photo des mains, du jumelage d'écriture, puis avec le ballon de basket et puis la main de l'aîné et du jeune. Là, c'était vraiment des belles photos qui ont été exposées au salon au mois de mai à Montréal-Nord. Il y a toujours le festival, un festival culturel, là. Fait qu'il y a, toutes ces photos-là avaient été exposées pendant ces semaines-là.
Donc, les mains qui écrivent, les mains qui jouent au ballon.
Ah oui, c'est vraiment beau. Ouais.
Et est-ce que dans cet échange-là, ils savaient à qui ils s'adressaient exactement?
Oui. La première lettre, non. Après ça, ils savaient, là. Oui, ils avaient créé il y avait un nom, là.
Donc, il s'adressait à une personne en particulier.
Oui, oui.
Parce que je sais que dans l'article, on cite entre autres Wensley Henry, qui est un jeune homme là, qui avait 15 ans au départ de cette initiative-là et qui avait 17 ans là, dans l'article.
Oui.
Pouvez-vous juste peut-être nous citer quelques passages de comment lui, il a vécu ça, cette initiative-là?
Je ne peux pas vous dire parce que ça fait quand même 2 ans. Fait que plus de souvenirs là, précis. Je pourrais vous dire n'importe quoi, mais je ne vous dirai pas n'importe quoi. Je me souviens plus. Mais j'ai un souvenir général de la chose. Puis du fait que chacun, quand on est revenu en décembre, ben, que chaque jeune cherchait son aîné. Puis que l'aîné, ben c'est sûr que les aînés sont moins en forme, fait qu'il en manquait quelques-uns, puis on sentait la déception, là. Il y en a qui ne retrouvaient pas leur aîné, ou un aîné ne retrouvait pas son jeune. Il se cherchait, là, il était content de se rencontrer, là. puis de faire un petit peu, tu sais, un jeune qui un sportif qui est fier, ben de montrer son habileté là, de je dirais pas faire le pan, mais quand même d'être fier de montrer comment il est habile au ballon. Il était content de montrer ça à son aîné.
Parce que je sais que vous avez l'initiative, vous l'avez ressuscitée là pour la pandémie, oui, justement pour briser cet isolement là. Ça avait mais été là, fait il y a 2 ans, mais ça a été ressuscité.
C'est ça, mais c'était pas tout à fait le même. Il y avait pas le même contact dans le sens que il y avait pas de jumelage là. Puis c'était pas avec le centre de jour, c'était avec la résidence Angélica. Donc, pour toutes les aînés qui étaient en CHSLD. Fait que c'est Amarande, encore une fois, qui a pris contact puis qui a demandé aux jeunes d'écrire des lettres plutôt générales qu'on pouvait distribuer aux aînés qui avaient plus de visite de personnes qui étaient comme isolées dans les chambres pendant la pandémie. Mmh. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on a créé ce pont-là.
Puis, outre justement ces points communs-là autour de l'immigration, quels étaient les contenus qu'on retrouvait dans ces lettres-là?
C'était beaucoup de raconter leur jeunesse. Puis tu sais, l'aîné, dans le fond, la première lettre qui arrivait, c'était une lettre de jeune. Et puis, l'aîné, il répondait, fait qu'il pouvait, tu sais, les interrogations qu'un jeune avait. Ben l'aîné pouvait dire ben oui,
j'ai vécu ça.
Tu vas grandir avec ça, moi j'ai vécu telle affaire ou fait que c'était vraiment comme un petit peu le vécu du jeune qui pouvait être comparé puis qui pouvait être répondu par l'aîné.
Ben c'est très touchant tout ça et vous m'avez dit avant qu'on débute l'émission que vous vouliez débuter des appels d'amitié.
Oui.
Alors en terminant, j'ai une petite suggestion à vous faire. Mm-hmm. Le 14 juillet, nous avons une émission qui a été en fait consacrée en deuxième partie à un jeune qui s'appelle Steven Bilodeau.
OK.
Et je vous invite à écouter cette émission-là parce que Solidaîné est une initiative que Steven a lancée avec d'autres jeunes.
OK.
Et peut-être qu'il pourrait justement faire de la médiation culturelle avec vous puis vous partager ses bons trucs et conseils pour mener à bien une telle initiative.
Ah, ça serait bien. Fait que je vais regarder cette émission-là, ça c'est sûr. Parce que là, c'est le retour au centre de jour, ça fait seulement que 2 semaines qu'il est réouvert après 6 mois d'absence. Puis il y a beaucoup d'aînés qui ne veulent pas venir parce qu'ils ont trop peur. Fait qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'aînés qui sont confinés à domicile puis qui ne sortent pas. Fait que il faut créer des ponts comme ça, oui.
Absolument. Et merci de le faire au nom des générations.
Mm-hmm.
On enchaîne en musique et j'ai choisi cette chanson-là à cause de la phrase suivante. Vous allez peut-être la reconnaître. « Je t'écris ces quelques lignes sur du papier quadrillé. » Ça te rappellera l'école et les années folles. Moi, c'est le seul papier que j'ai.
Michel Rivard.
Ouais, le retour de Don Quichotte.
Merci.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Je t'écris ces quelques lignes sur du papier quadrillé. Ça te rappellera l'école et les années folles. Moi, c'est le seul papier que j'ai. Ça fait déjà 2 semaines. On m'a laissé le droit de sortir. Comme je suis pas tellement fort sur le téléphone, j'ai préféré t'écrire. Je te raconte pas tout ce qu'on m'a fait dire, tout ce qu'on m'a fait dire, ni tout ce qu'on m'a dit pour me faire croire qu'on voulait me guérir. Je t'écris pas pour me plaindre, j'avais juste le goût de parler. C'est encore troublant pour moi d'être revenu dans le quartier. 5 ans sans recevoir de nouvelles, faut dire j'en ai pas donné. Y'a des mélodrames qu'on est aussi bien de ne jamais plus. Le soleil me fait tout drôle, les rues sont belles, ça sent le printemps. On pourrait peut-être se voir un peu, peut-être que t'as pas chat est revenu avec son cheval de porcelaine et une armure qui ne tient plus. Les romances impossibles qui traînent le soir au coin des rues, comme les moulins et les géants, ne lui font pas plus peur qu'avant. J'ai passé à vivre en attendant entre les quatre murs et le lit trop dur offert par le gouvernement. On écrit aux larmes sur les draps blancs d'incroyables comédies pour tous les acteurs drôles qui apprennent leur rôle dans les coulisses de l'ennui, pour tous les fous qui ont peur de l'amour comme des des étoiles, toutes les robes de bal, de toutes les reines, de tous les carnavals, pour tous les imbéciles qui chassent la baleine sur des immenses bateaux et qui ne voient jamais le poisson d'avril qui leur pend dans le dos. Tu peux dire à tout le monde que Don Quichotte est revenu avec son cheval de porc et une armure qui ne tient plus. Les romances impossibles qui traînent le soir au coin des rues, comme les moulins et les géants, ne lui font pas plus peur qu'avant. On peut pas vraiment dire que quelque chose a changé, mais je reviens debout, c'est déjà beaucoup, et c'est déjà le mois de mai. J'aimerais juste trouver la place que tout le monde finit par se trouver, et si t'as le goût de me voir, je te raconterai des belles histoires de chevaliers.
L'arrivée d'une nouvelle saison, c'est souvent associé à des rituels de saison. Et je me rends compte à quel point c'est important pour moi, ces rituels-là. Bien, vous le savez, je suis autrice de livres sur les cérémonies, les fêtes et les rituels. Et j'avais envie de vous lire des petits bouts d'Au fil des saisons sur le chapitre de l'automne. Après l'éclat de l'été, on s'en mitoufle. Les arbres rougeoient. L'automne est un temps de maturation et de sagesse qui favorise l'introspection. On fait le point, on revient à soi et on redémarre la machine. Alors voici quelques-uns de mes chaleureux rituels d'automne. La symphonie des couleurs, la virée aux pommes, le party de marinade ou de tarte aux pommes ou de spaghettis, la route des vins, les mijotés, les cols roulés douillets et les pyjamas en flanelle. Un bon feu de foyer, promenade dans les bois, le spectacle des oies des neiges qui prennent leur envol, la chaleur des bains, des bulles et l'été des Indiens. J'espère qu'on va l'avoir, ce fameux été des Indiens, qui sait? Mais ce week-end dernier, j'ai fait mon rituel de la fameuse sauce à spag avec mon amie Geneviève, et je suis très reconnaissante parce que c'est un rituel que j'avais avec mes ex-beaux-parents. Et j'ai su le réinventer, et c'est ce qui est important, de réinventer nos rituels parce qu'ils donnent du sens à notre vie. Je vous offre une lettre de Pierre Lapointe pour rester dans le thème. «
Je t'écris cette chanson comme une lettre, une carte postale que tu liras peut-être, tentative qui, j'espère, réveillera dans ta chair le souvenir de ma voix. C'est qu'il y a déjà maintenant quelques mois que nous avons coupé les ponts, toi et moi, qu'entre nous une rivière de silence froid et austère est venue dicter sa loi. Je t'écris cette chanson pour te dire que je t'aime, que même si notre histoire est morte, l'amitié vit quand même. Je sais que la douleur fait souvent place à la peur de revoir les yeux qui brillent de celui qu'on a aimé. Je t'écris cette chanson comme une lettre, une carte postale tu liras peut-être, une photo qui, j'espère, mettra un peu de lumière sur les restes de nos joies. C'est que chaque matin depuis quelques mois, je repense à ce qu'on était, toi et moi. Ce soir je n'ai plus d'armure et te dis oui, c'est dur d'avoir perdu le combat. Je t'écris cette chanson pour te dire que je t'aime. Au risque de raviver les blessures et la haine, il est bien trop de jouer l'homme viril, de jouer au chevalier après t'avoir tant aimé. Je t'écris cette chanson comme une lettre, une carte postale que tu liras peut-être.
Une lettre de Pierre Lapointe. Merci à Aline Pinksteren, éditrice et rédactrice en chef de Le Bel Âge. Vous pouvez consulter lebelage.ca et la super initiative On jase-tu qui aura lieu le 19 novembre. Je vous en reparle parce qu'au fil du temps, on va certainement y participer. Merci également à Julie Nollet, récréologue au Centre de jour Angélica. Une 15e émission réalisée grâce à une équipe formidable. Louis Garon, chef d'antenne, Maurice Bolduc à la régie, Catherine Bourderon à la recherche. La semaine prochaine, on parle de l'amour intergénérationnel avec notre invitée Chantal Girard, qui a été grand-mère à même pas 30 ans. Bonne semaine!